Ouais, bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être ensemble et de pouvoir encore ce matin tourner nos regards vers Dieu et nous mettre maintenant aussi à l'écoute de sa parole. Alors, je vais laisser Mamie afficher. Est-ce que vous reconnaissez? C'est quoi? Ah, j'ai entendu. J'ai entendu quelque chose. T'as dit quoi, Henri? C'est pas créé. Ouais. Est-ce que vous êtes certain? Le monument qui est là, vous reconnaissez? C'est? Ouais. Mais quelqu'un a dit c'est pas créé. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas à créer? C'est ça, hein? Il y a des signes, des indications sur l'image, bon, qu'on ne voit pas super, super bien, mais en tout cas qui nous indiquent que oui, c'est la tour de Cray, mais ce n'est pas à Cray. Et effectivement, on est bien dans une copie, une reproduction de la tour de Cray qu'on peut voir dans les Yvelines, dans la région parisienne. Et je crois que c'est un musée qui s'appelle France Miniature et qui présente tout au long d'un parcours, d'une balade, des monuments qui sont un petit peu partout en France. Effectivement, il s'agit bien de la tour de Cray, mais il y a des signes, il y a des marques qui nous indiquent que ce n'est pas la tour originale. Et c'est un petit peu de quoi j'aimerais vous parler ce matin. On va lire ensemble un passage qui se trouve dans la première épître de Jean, une lettre que Jean, qui a été disciple de Jésus, qui l'a côtoyé pendant 3 ans du temps de sa vie sur terre, a écrite à des églises. Et dans ces églises, il y avait des personnes qui enseignaient des choses qui étaient fausses par rapport à Dieu. Alors elles ont été repérées, elles ont été mises en dehors de l'église. Mais au moment où Jean écrit ses lettres à ces églises, ces personnes essayent encore d'influencer les croyants de ces églises. Ils exercent encore une certaine influence sur eux. Quel est le résultat de cela? Les croyants sont déstabilisés dans leur foi. Ils n'arrivent plus à distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est une reproduction, qu'est-ce qui est une fiction dans ce qu'on leur dit. Et ils ont comme une perte de confiance en eux, jusqu'à se dire et à se poser cette question, finalement, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment un croyant ou une croyante? Est-ce que j'ai vraiment la foi au final? Et Jean, dans cette lettre qu'il écrit à ces chrétiens, il veut les rassurer et il leur parle tout au long de cette lettre de ce qui caractérise la vie d'un véritable croyant. Et une des marques de cette vie véritable, c'est un amour authentique. Et il va leur rappeler et nous rappeler que c'est Dieu qui suscite en nous un amour authentique pour nos frères et sœurs et qui se traduit par des actes de bonté. C'est Dieu lui-même qui suscite en nous cet amour authentique pour nos frères et sœurs, qui se traduit par des actes de bonté. Et j'aimerais, au travers du passage qu'on va lire ce matin, qu'on regarde trois caractéristiques de cet amour authentique. On va voir que c'est un amour qui est fraternel. On va voir que c'est un amour qui est sacrificiel. Et puis on va voir que c'est un amour qui est surnaturel. C'est un amour qui est fraternel et je vous invite à prendre les quelques premiers versets donc de 1 Jean chapitre 3 et on va prendre premièrement, on va avancer au fur et à mesure et on va lire d'abord les versets 11 à 15, mais je commence au verset 10 juste pour nous resituer un tout petit peu dans le contexte. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Jean nous dresse tout au long de sa lettre deux catégories de personnes. Il nous dit en fait, soit on est pour Dieu, soit on appartient à Dieu, soit on est contre Dieu. Et il utilise ce terme fort, enfant du diable, dans le sens où le diable est ennemi de Dieu, il est contre Dieu. Et cela retrace en fait deux catégories encore aujourd'hui. Soit aujourd'hui on appartient à Dieu, on a placé notre foi en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu, soit on est ennemi de Dieu à ce moment-là, et on appartient à la deuxième catégorie. On commence tous dans ce monde, dans cette deuxième catégorie, et on a cette possibilité dans le courant de notre vie, en plaçant notre foi, et ça a été rappelé ce matin, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, comme celui qui est mort pour nous sur cette croix, de devenir enfant de Dieu. Et tout au long de sa lettre, il donne des caractéristiques pour décrire chacune de ces catégories qui s'opposent. Alors, d'un côté, ceux qui appartiennent aux ténèbres, de l'autre, ceux qui appartiennent à la lumière. D'un côté, ceux qui appartiennent à la vérité, de l'autre côté, ceux qui appartiennent au mensonge. D'un côté, ceux qui sont pour Christ, et de l'autre côté, ceux qui sont contre Christ. Et ce matin, au travers de ce passage qu'on vient de lire, il ajoute une paire de caractéristiques qui s'opposent. Et soit, d'un côté, on a ceux qui s'aiment, et de l'autre côté, on a la haine. Si je suis enfant de Dieu, alors cela va se manifester par de l'amour fraternel, c'est-à-dire de l'amour pour mes frères et sœurs en Christ. Et on voit ça au verset 11. Jean l'avait déjà dit dans le début de sa lettre, et il l'avait entendu lui-même de la bouche de Jésus, qui avait dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et du coup, il illustre ce qu'il dit en prenant un contre-exemple. Il va parler de la haine, et il va parler de ce qu'un frère, Caïn, il va parler de ce qu'un frère Caïn a fait à son autre frère, Abel. C'est la première fratrie que ce monde ait connue et on peut retrouver leur histoire dans Genèse 4. C'était aussi, malheureusement, le premier meurtre de l'histoire de notre humanité. Caïn a assassiné son frère parce que Dieu avait accepté son offrande, mais pas celle de Caïn. Caïn agit de la sorte parce que son frère était juste. Il appartenait à la première catégorie. Et ce meurtre que Caïn a fait a révélé que Caïn appartenait à la deuxième catégorie. Alors quel enseignement est-ce que Jean veut nous donner au travers de cet exemple un petit peu dramatique ? Eh bien, l'idée ici, elle est que la haine est ce qui caractérise ceux qui rejettent Dieu, donc qui sont dans la deuxième catégorie, envers ceux qui lui appartiennent. La haine est ce qui précède et qui va conduire au meurtre. C'est le fait de désirer le mal de l'autre. Donc quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, vis-à-vis de son frère et de sa sœur, on ne devrait pas être animé de cette haine, désirer le mal. Et Jean veut rassurer ses lecteurs de deux manières. Regardez le verset 13. Et il leur dit, ne soyez pas étonnés si le monde, et là il entend le monde dans le sens de la deuxième catégorie, c'est-à-dire si ceux qui sont opposés à Dieu ont de la haine envers vous, c'est normal. Et sous-entendu même, soyez plutôt rassurés. C'est un signe que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes dans cette première catégorie. Je crois qu'on ne peut pas s'attendre, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, à moins que ce que Jésus lui-même a expérimenté. Ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et la suite de l'histoire de Jésus, qu'on peut lire dans les évangiles, nous montre comment cette haine envers Jésus s'est concrétisée par son meurtre sur une croix. Selon Portes Ouvertes, un chrétien sur huit dans le monde subit la persécution. Beaucoup de chrétiens risquent leur vie au quotidien parce qu'ils annoncent qu'ils croient en Jésus. Et on aura une réunion mardi soir, Portes Ouvertes, qui va nous permettre justement de porter nos regards sur les chrétiens en Afrique subsaharienne et voir qu'est-ce qu'ils vivent. Alors ce n'est pas, et j'ai mis entre parenthèses encore, notre cas ici en France. On ne risque pas notre vie encore pour notre foi. On a encore beaucoup de liberté, même si on sent petit à petit qu'on va vers la perte de ses libertés. La persécution qu'on vit n'est peut-être pas physique, au point de perdre notre vie. Elle est peut-être plus subtile que ça. Ça peut être des gens qui nous évitent parce que nous parlons de Jésus. Ça peut être le rejet. Peut-être que votre famille à couper les ponts avec vous à cause de votre foi. Peut-être que vos enfants ne veulent plus vous parler ou ne veulent plus vous voir à cause de votre foi. Peut-être que vous êtes régulièrement moqué ou peut-être régulièrement humilié par vos amis ou vos collègues de travail à cause de votre foi. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe même vous a quitté à cause de cela. Jean donne un réconfort au travers de cela, à ses frères et sœurs dans ses églises. Si vous vivez ce rejet, si vous vivez cette forme de persécution, si vous le ressentez, soyez quelque part réconforté. Cela signifie que vous appartenez à Dieu. Le monde rejette Dieu et donc rejette ceux qui lui appartiennent. Alors peut-être qu'il y a aussi un avertissement pour nous, si nous ne ressentons pas vraiment ce rejet d'une manière ou d'une autre, et par les exemples que j'ai donnés, ou peut-être d'autres exemples, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on est un petit peu trop ressemblant encore aux personnes qui sont dans le monde et qui sont encore opposées à Dieu ? Deuxième élément que Jean utilise pour rassurer ses frères et sœurs, il dit « Votre amour pour vos frères et sœurs est le signe que vous êtes passé de la deuxième catégorie à la première catégorie, de la mort à la vie. » Un peu plus loin dans sa lettre, Jean dira « Celui qui aime est né de Dieu. » de ce Dieu qui est amour. Encore à nouveau pour nous, cette question, quelle est la météo de notre relation avec nos frères et sœurs dans l'Église ? Pouvons-nous dire sincèrement que nous aimons nos frères et sœurs ? Alors ça ne veut pas dire que cet amour est toujours facile, que c'est toujours facile d'aimer ou que nous aimons de manière parfaite, bien loin de là. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des tensions dans nos relations. Ça fait partie de la vie normale d'une famille, et encore plus dans la famille de Dieu. Et Jésus nous appelle et nous encourage à nous réconcilier. Mais nous ne pouvons d'aucune manière souhaiter le mal à quelqu'un. Quelqu'un, un pasteur anglais, a dit ceci: « Personne ne peut dire qu'il a une foi authentique s'il détruit son frère ou sa sœur, que cela soit la vie physique, la réputation ou le caractère. » J'en dis que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Alors peut-être que vous vous dites « Ok, je vois, mais ça veut dire quoi ?» Exactement aimer son frère ou sa sœur dans l'Église. Et cela nous amène à la deuxième caractéristique de cet amour. C'est un amour sacrificiel. Je poursuis la lecture, les versets 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Après l'exemple négatif de Caïn, dont sa haine l'a mené à enlever la vie de son frère, voici un exemple positif de ce qu'est l'amour, cette fois dans la personne de Jésus-Christ. C'est un amour qui se donne. On voit ça au verset 16. Voilà l'amour par excellence. Jésus a donné sa vie. Ça signifie littéralement, Jésus a déposé sa vie. C'est un amour volontaire. C'était un amour volontaire de la part de Jésus. Un amour, en quelque sorte, don de soi. Et dans cet amour don de soi, dont j'en parle, il y a quelque chose de concret. L'amour est bien plus ici que juste un sentiment ou une émotion. Jésus ne nous a pas écrit une lettre à tous en disant « Hello, sachez que je vous aime et je vous souhaite une bonne journée ». Toute la Bible, toute sa parole est une lettre où il nous raconte comment il a concrètement donné sa vie pour chacun de nous. Son amour s'est traduit concrètement par des actes. Une autre caractéristique de cet amour don de soi, c'est forcément un amour coûteux. Parce qu'un don est toujours gratuit pour celui qui le reçoit, et il coûte toujours pour le donateur. Jésus lui-même a payé un prix énorme en se sacrifiant pour nous. Il est mort pour nous sur la croix. Voilà l'immensité de l'amour de Jésus pour nous, un amour don de soi, un amour concret, un amour qui a coûté. Et Jean nous encourage à aimer nos frères et sœurs de la même manière. Alors on ne peut pas aimer nos frères et sœurs de l'amour de Jésus parce qu'il est unique cet amour. Lui seul pouvait mourir sur cette croix pour racheter nos vies et nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, pour nous permettre par la foi de passer d'ennemis de Dieu à amis de Dieu. Mais en quelque sorte, nous aussi nous pouvons aimer nos frères et sœurs et donner notre vie. Nous sommes aussi invités à aimer de cet amour don de soi. Alors où en sommes-nous ? Où en suis-je dans cet amour don de moi? Est-ce que mon amour pour mes frères et sœurs est un amour concret? Jean le dit, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes, verset 18. Ces actes consistent à faire du bien à mes frères et sœurs, on voit ça au verset 17, à manifester des actes de bonté. C'est un amour pratique où je pourvois aux besoins en fonction de mes moyens, en fonction de mes possibilités, en fonction de mes capacités. Prendre soin les uns des autres dans la communauté, dans l'Église, peut être fait de bien des manières. On peut le faire tous ensemble en tant que communauté, et cela a été déjà le cas à quelques reprises, à plusieurs reprises dans l'Église. Mais nous pouvons le faire aussi individuellement. Et tant de manière communautaire qu'individuellement, cela se fait, et j'ai des échos de cela, on le voit, et quel encouragement de voir l'implication des uns et des autres. Comme le dit Jean, cela nécessite de voir. Au verset 17, si un homme riche voit son frère dans le besoin. Pour aider un frère ou une sœur, je dois être conscient de ses besoins spécifiques. Pour connaître ses besoins spécifiques, je dois connaître cette personne. Pour la connaître, je dois passer du temps avec elle. Je dois m'intéresser à sa vie. Je dois m'intéresser à ses joies, m'intéresser à ses défis. Aller sûrement plus loin, il me semble que juste quelques généralités qu'on peut partager à la fin d'un culte. Mais c'est là qu'on commence à toucher à l'aspect coûteux d'un amour don de soi. Un aspect coûteux parce que se tourner vers les autres a forcément un coût. C'est une forme de renoncement à soi-même. Jésus a renoncé à la gloire qu'il avait auprès de son Père. S'intéresser à ses frères et sœurs, c'est un renoncement à soi-même. Quelque part, c'est accepter de mourir à soi, pour son frère ou pour sa sœur. Du temps de Jésus et même après, les besoins étaient surtout d'ordre physique. Les gens étaient touchés dans leur santé. Besoins matériels aussi. Aujourd'hui, en étant au bénéfice des progrès de la médecine, ces besoins physiques sont moindres. Mais il y a toujours des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins relationnels. Et cela va certainement coûter de mon temps, de passer du temps avec mon frère et mes sœurs. Cela va certainement coûter de mon argent, de mon matériel. Inviter quelqu'un pour passer une après-midi ensemble, c'est certainement renoncer à un moment de tranquillité et de sieste peut-être. Aider financièrement son frère ou sa sœur, c'est certainement renoncer à l'achat de la nouveauté du moment. Aider matériellement, c'est certainement renoncer à un peu de confort. Participer au groupe de maison, à ce moment en famille le mardi soir, c'est partager ce moment avec mes frères et sœurs. Et c'est renoncer peut-être ce soir-là à se coucher tôt ou à regarder le match qui passe à la télé ou à une soirée tranquille pour vivre ce moment avec mes frères et sœurs. Passer 20 minutes au téléphone pour prendre des nouvelles, et c'est plutôt ce que nous avons vécu ces derniers temps avec cette situation du Covid. C'est certainement renoncer à autre chose à ce moment-là. Cela demande un effort d'aller vers les autres, plutôt que d'attendre aussi, peut-être, que les autres viennent vers nous. Et on peut se poser cette question. Pourquoi, finalement, est-ce que cet amour don de soi me coûte. Pourquoi est-ce que je ressens souvent à l'intérieur comme une lutte? Pourquoi est-ce que cela se fait pas toujours de manière naturelle? Et cela nous mène à la dernière caractéristique. Cet amour authentique est un amour surnaturel. Je poursuis et je termine la lecture de ce passage. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. Cet amour don de soi est surnaturel, contre nature. Parce que si je regarde à ma propre vie, à ce qu'il y a dans mon propre cœur, je me rends compte combien je suis encore marqué par l'égoïsme. Comment est-ce que je suis encore si souvent centré sur moi-même ? Nous recherchons naturellement notre propre plaisir, notre propre confort, notre propre bonheur. On attend que les autres peut-être s'intéressent à nous, viennent vers nous. C'est bien plus facile. Et puis quand on se tourne vers les autres, quand je me tourne vers les autres, c'est rare que ce soit de manière désintéressée. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Jean nous rappelle au verset 24 que c'est le Saint-Esprit dans notre vie qui suscite à la fois notre confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a amenés à cette foi en Jésus-Christ. Et c'est lui qui suscite cet amour authentique pour les autres. Et on voit ça au verset 23. Ailleurs dans la Bible, il est dit « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné ». Le Saint-Esprit agit dans nos vies comme le carburant qui nous presse vers les autres, qui nous pousse à aimer nos frères et sœurs par des actions bienveillantes et inconditionnelles. Alors à nouveau, si je suis honnête avec moi-même, je dois dire que ce n'est pas toujours facile et que je ressens parfois encore maintenant cette tension entre ma nouvelle identité d'enfant de Dieu et ma propre nature qui est encore présente et avec laquelle je vais vivre jusqu'à ce que je quitte cette terre, qui m'amène à me centrer sur moi-même. Je suis en chemin, nous sommes en chemin, et nous avons besoin que Dieu nous aide. Nous devons rester dans sa dépendance et lui demander qu'il développe en nous cet amour en acte authentique. À chaque fois que j'agis avec bienveillance envers mes frères et sœurs, non seulement j'obéis à Dieu, au verset 23, mais ça me rassure sur le fait que je suis bien son enfant. On voit ça au verset 19. Parce que l'amour fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Dans Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. L'amour est un fruit que le Saint-Esprit implante dans ma vie. Et pour tous mes actes manqués, j'ai envie de dire, pour toutes les fois où j'ai manqué l'occasion de manifester concrètement cet amour don de moi, je peux aussi être rassuré. Rassuré parce que Jean nous rappelle que Dieu connaît nos cœurs, au verset 20. Rassuré parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et il aurait pu le rajouter dans ces deux catégories. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Un peu plus tôt dans sa lettre, Jean a dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. J'aimerais conclure. Jean voulait rassurer ses destinataires en leur rappelant qu'une des marques de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est l'amour. Un amour fraternel, un amour sacrificiel, don de soi, et un amour surnaturel qui ne vient pas d'eux. Alors nous allons bientôt nous retrouver pour réfléchir ensemble comment nous pouvons, en tant que famille de Dieu, montrer que l'on aime notre ville de manière concrète, par des actes concrets. Et c'est une bonne chose, c'est quelque chose que Dieu nous encourage aussi dans sa parole. Mais Jésus a dit aussi, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors oui, on est appelé à aimer notre ville, à aimer ceux qui sont encore à l'extérieur de la famille de Dieu, à le montrer aussi de manière concrète, de manière désintéressée. Mais l'amour que nous avons entre nous, enfants de Dieu, que l'on manifeste dans le cadre de l'Église, de notre communauté, dans le cadre de la famille de Dieu, est aussi un témoignage pour les personnes de l'extérieur. Alors que le Seigneur nous encourage et nous aide par son esprit à manifester concrètement notre amour les uns pour les autres. Nous sommes en période de déconfinement, l'été est là. Profitons-en pour passer du temps avec nos frères et sœurs autour d'un barbecue. Pas plus de 6 à table ou 10. Autour d'une soirée jeu, autour d'un pique-nique au bord de la rivière, d'une rando, d'un café. Si on a l'habitude de vivre ces choses-là, peut-être seul ou peut-être avec sa famille, en couple, faisons l'effort et disons-nous qui est-ce que je peux inviter pour venir partager ce moment avec moi, avec nous. N'attendons pas non plus d'être invités, mais prenons l'initiative de le faire et demandons au Seigneur de nous rendre attentifs et sensibles aux besoins de chacun et de nous montrer, de nous interpeller individuellement, mais toujours aussi en tant que communauté, tous ensemble, sur la manière dont, à notre niveau et tous ensemble, nous pouvons agir concrètement quand Dieu nous révèle un besoin spécifique dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Je termine par ce verset qui se trouve dans Galates. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen.